comprendre la venue de Jésus dans notre monde, par exemple celle de la parole. Au commencement était la parole était Dieu, et puis la parole a été faite chair. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est toute l'expression de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyé un texto, Dieu ne nous a pas envoyé un tweet, Dieu nous a envoyé toute l'expression, tout ce qu'il voulait nous dire, tout ce qu'il voulait nous communiquer au monde, il a dit en Jésus. Jésus, c'est l'expression totale, la parole de Dieu. Ou bien il y a l'image de la lumière, encore une belle image à laquelle on pense souvent à Noël, Jésus la lumière qui vient dans notre monde pour éclairer nos ténèbres. Mais ce matin, j'aimerais parler de la vie, le don de Dieu, de la vie. Et ça aussi, on trouve beaucoup dans l'évangile de Jean, comme ce premier verset, en elle, dans cette parole, dans cette personne de Jésus qui était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'évangile de Jean est un exposé sur la vie. L'évangile de Jean veut nous offrir la vie, c'est le cadeau de Noël de Dieu, c'est la vie. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Est-ce que cette vie, est-ce que cette offre de vie devrait nous intéresser? Je pense que oui. Si vous pensez par exemple au sapin de Noël, j'ai regardé un peu, je ne sais pas d'où viennent toutes les traditions concernant le sapin de Noël, mais il y a c'est certainement un mélange de traditions païennes et de traditions chrétiennes. Mais les deux s'accordent pour dire que oui, le sapin de Noël est en quelque sorte un symbole de vie. Cet arbre qui ne perd pas ses feuilles, un symbole de vie au milieu de l'hiver. Et c'est notamment les protestants à Strasbourg et tout ça qui ont introduit les premiers sapins en France avec l'héritage protestant. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, je pense qu'on est attiré par la vie, par ce symbole de vie, cet arbre de vie. Et c'est la réalité, la recherche de la vie a toujours guidé les hommes dans ce monde. L'amour de la vie, la préservation de la vie a souvent été une lumière pour nous guider dans nos choix éthiques, nos choix moraux, nos choix philosophiques. La vie était une lumière pour les hommes. On est programmé, si vous avez remarqué, on est programmé quelque part à préférer la vie à la mort. Il y a quelque chose en nous qui veut que la vie fleurit, que la vie s'épanouit, que la vie triomphe sur la mort. On préfère la verdure à la désolation. On préfère la vie à la non-vie. On préfère la vie à la mort. D'où ça vient? D'où ça vient cette attirance, cette préférence pour la vie, cette soif pour la vie? D'où ça vient? D'après la thèse évolutionniste, c'est la mort et le néant qui est alpha et oméga, qui est le commencement et la fin de toute chose. C'est la mort qui est moteur de tout progrès et de toute évolution. C'est la mort et le néant qui est destiné de toute chose. Et pourtant, à Noël, on aime bien s'aligner plus sur la vision de Jean, la vision biblique, qu'il y avait la vie et que la vie vienne dans notre monde et qu'il y a un espoir de vie et que notre destinée se trouve dans la vie. Alors ce matin, j'aimerais faire une chose un peu exceptionnelle. Si vous avez l'habitude d'assister à nos cultes, souvent on traite un texte comme nous avons lu. Mais ce matin, j'aimerais survoler l'ensemble de l'évangile de Jean pour vous montrer à quel point il veut nous offrir la vie, ce don de la vie, comment Jésus est la vie. Donc ensemble, on va essayer de déballer ce don, ce cadeau de la vie. Et pour ça, Jean a organisé son évangile de manière assez claire et il nous présente des signes de vie et puis des paroles de vie. Donc nous allons regarder des signes de vie et puis des paroles de vie et pour comprendre l'offre de vie. Tout d'abord, les signes de vie. Lorsque Jean a écrit son évangile, il a sélectionné certains miracles que Jésus a fait. Il a fait un tri pour les commenter et la plupart remarquent qu'il a choisi notamment sept miracles, mais justement dans le livre de Jean, il ne parle pas de miracles, il parle de signes. Et ces miracles qu'a fait Jésus, bien sûr Jésus a fait bien plus, mais Jean a choisi sept. Et pour Jean, ce sont des signes. Ce sont des signes qui montrent que Jésus est la vie, que Jésus est le Créateur, que Jésus est Dieu. Mais nous allons regarder rapidement ces miracles et voir que Chaque miracle, chaque signe nous montre comment Jésus ramène la vie dans notre vie et dans notre monde. Alors j'ai fait la liste. Tout d'abord, le premier signe, le premier miracle dans l'évangile de Jean, c'est en chapitre 2, c'est lorsque Jésus transforme l'eau en vin lors d'un mariage. C'est le premier miracle, c'est sa carte de visite, c'est comme ça qu'il montre sa gloire. Et pourtant, ce jour-là, personne n'est malade, personne n'est sur le point de mourir, c'est pas ça le miracle que Jésus fait. C'est plutôt la fête elle-même qui est moribonde. La fête elle-même est en train de mourir parce qu'il n'y a plus de vin. Alors à l'époque, que le vin vienne à manquer lors des noces, c'était une honte, c'était une catastrophe. Le vin, dans toute l'histoire des Juifs et dans l'Ancien Testament, le vin, un peu comme la champagne pour nous, était signe de célébration, signe de bénédiction, signe de victoire, signe de joie. Et que qu'il n'y a plus de vin, c'était dramatique. Pour nous, imaginons que lors de l'inauguration que nous avons fait récemment avec tous les invités et toutes les autorités de la ville, imaginons qu'on annonce le vin d'honneur et qu'au moment on sorte, on met tous les bouteilles et tout l'apéritif sur un chariot et on avance, et au moment où le maire de Toulouse approche pour prendre son verre, le chariot se renverse, toutes les bouteilles se cassent, tous les apéritifs tombent à terre. Là, on aurait du mal à dire « la vie est belle ». Là même, j'aurais du mal à dire « moi, c'est la vie », même si on nous apprend à dire « c'est la vie ». Mais à ce moment même, j'aurais envie de dire « ah, c'est la honte de ma vie, c'est la cata ». Et c'est ce que ce couple est en train de vivre avec tous leurs conviés, il n'y a plus de vin. Alors Jésus arrive et il fait ce miracle. Il guérit personne de la maladie, mais ce premier miracle, il ramène la vie à cette fête. Quelque part, en transformant l'eau en vin, il dit « Je suis venu à ces noces afin que ces noces aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Je rappelle, si vous faites des calculs, Jésus a offert à ses invités 600 bouteilles de vin, d'un excellent vin, l'équivalent en tout cas. Donc vous voyez la vie abondante qu'il ramène à la fête. Et ça, c'est une image, c'est une illustration de Noël aussi. Notre vie, on sait au fond de nous, notre vie devrait être une fête, une célébration joyeuse avec des amis. Mais souvent, l'expérience humaine est remplie de honte, de déception, de tristesse, de drame, de catastrophe. Et Jésus est venu pour réparer ça. On passe à un deuxième miracle, un deuxième signe, c'est en chapitre 4. Jésus guérit le fils d'un officier. On passe rapidement, mais à la fin de chapitre 4, il est dit que ce fils était prêt de mourir et l'officier exerce de la foi en Jésus et Jésus lui dit « Ton fils vit ». Donc Jésus ramène la vie au sein de cette famille. On avance. Un troisième signe, c'est la guérison du paralytique en chapitre 5. Ce paralytique, il peut pas marcher, il n'a pas l'usage de ses jambes, et cela depuis 38 ans. Et Jésus le guérit, lève-toi et marche, et il marche, c'est miraculeux, c'est devant tout le monde. Mais ce qui est fort dans ce miracle, ce signe, c'est que c'était un jour de sabbat. Et les gens, notamment les pharisiens, les religieux de l'époque, reprochent Jésus d'avoir agi, d'avoir travaillé un jour de sabbat. Et sa réponse est forte. Jésus dit, mais mon Père, Dieu, mon Père, lui, il a toujours agi, travaillé, même le jour de sabbat. C'est-à-dire Dieu, vous le savez, il maintient la vie depuis la création, depuis qu'il a créé toute chose. Dieu ne prend pas des congés dans ce sens pour que la vie s'arrête. Donc même les sabbats, Dieu entretient la vie, il crée la vie, il maintient la vie. Alors Jésus dit, mon Père fait ça, même un jour de sabbat, alors moi aussi je fais. Il y a ce verset, donc il commente ce miracle de la guérison du paralytique en chapitre 5, et il dit « Comme le Père a la vie en lui-même, aussi il est donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et il dit « Je fais des œuvres de création, tout comme Dieu a créé le monde, tout comme j'ai créé le monde tout au début, je suis en train de refaire ça, notamment pour cet homme. » Et que ce soit un jour de sabbat ou pas, ça n'a pas d'importance pour Dieu le Créateur. Donc, encore un signe de vie, combien il entretient et ramène la vie tout le temps, tous les jours. Ensuite, il y a la multiplication des pains. Ça, c'est en chapitre 6. C'est le quatrième signe. Et là, c'est très fort, c'est un signe de vie, c'est un signe où il apporte la vie. Il y a une foule affamée dans le désert et Jésus prend 5 pains et il répond à la foule. C'est-à-dire, il donne la vie à cette foule. C'est clairement un signe qui donne la vie, mais Jésus a commenté le miracle par la suite et il a demandé aux gens de voir plus loin que le physique, que juste remplir le ventre. Il a demandé aux gens de voir un sens spirituel derrière ce miracle. Et il utilise l'image du pain pour expliquer comment il est venu nous nourrir, notre cœur, notre esprit. Il utilise l'image du pain et de manger pour expliquer le salut. La foi, c'est quelque part manger de ce pain spirituel que Dieu nous donne en Jésus. Et nous découvrons dans ce miracle que Jésus, il est comme la nourriture spirituelle, l'énergie spirituelle qui donne la vie éternelle. Juste à ce moment, Jésus aussi va marcher sur les eaux. Certains le mettent en cinquième miracle. Moi, j'ai tendance de rattacher la marche sur ces eaux avec la multiplication des pains. Ça va un peu ensemble. Mais après, un cinquième signe, c'est en chapitre 9. Où Jésus guérit un aveugle, qui est aveugle depuis sa naissance. Et ici, dans chapitre 9, le sens fort de ce miracle, l'image dominante, c'est celle de la lumière et des ténèbres. Et cette image, on va la garder plus pour cet après-midi. Le thème du repas fraternel, c'est un peu la lumière, comment Jésus est la lumière dans notre monde. Et Jésus, en guérissant cet aveugle, c'est vrai, il lui apporte la lumière. Mais pour Jean, la lumière et la vie vont ensemble, comme dans notre verset du début. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Comme le soleil aussi, le soleil apporte la lumière, mais cette lumière est vie pour notre planète. Donc Jésus, en apportant la lumière dans nos vies, il apporte la vie. Et cet homme qui pouvait enfin voir, c'est comme il découvre une nouvelle vie. Et ça aussi devient une illustration, un parabole pour ce que c'est de rencontrer Dieu, de rencontrer Dieu en Jésus-Christ, de saisir le don de Noël et de dire, voilà, maintenant je vois ta personne, je vois ta grâce et je peux marcher dans la lumière. C'est la vie, c'est une nouvelle vie. Et après, il reste 2 signes. On arrive à, pour Jean, c'est des signes forts, le signe culminant. C'est les signes les plus parlants dans son évangile. Il s'agit des résurrections. D'abord la résurrection de Lazare en chapitre 11, et puis le signe par excellence dans tous les évangiles, c'est la résurrection de Jésus que vous trouverez en chapitre 20 et 21. Jésus ressuscite Lazare qui était mort depuis 4 jours, et devant de nombreux témoins, il ramène Lazare à la vie. Donc là, c'est un signe de vie. On ne peut pas rater ça. Et puis Jésus lui-même va connaître une résurrection après sa mort sur la croix. Et vous m'avez peut-être entendu citer, mais j'aime bien rappeler ce que dit Luc Ferry, ce philosophe, ancien ministre de l'Éducation. Il retrace l'histoire des philosophies dans son livre « Apprendre à vivre », justement. Il dit que toutes les philosophies, toutes les quêtes philosophiques essaient de gérer cette question de mortalité. On cherche la vie, et les philosophies et les réflexions des hommes veulent essayer de gérer ça et retrouver la vie. Et lui, il fait l'inventaire des philosophies à travers l'histoire et des religions. Et il arrive à cette conclusion. Lui-même n'est pas croyant, mais il dit le christianisme bat tous les concurrents, notamment à cause de la résurrection. Et il souligne notamment les deux signes de Jean, la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. On reconnaît que la plupart des religions offrent la vie éternelle. Tout le monde veut cette vie éternelle et la plupart des religions le proposent. Mais comme voit Ferry, il va plus loin et dit d'après le christianisme, c'est la vie éternelle plus. C'est la vie éternelle encore meilleure à cause de la résurrection. Dans l'évangile de Jean, on parle souvent de vie éternelle. Et c'est l'offre suprême de cet évangile, mais ces résurrections vont montrer un peu plus ce que c'est que cette vie éternelle. Parce que dans la Bible, la vie éternelle n'est pas simplement une existence sans fin. une existence sans fin où l'on s'ennuie dans la solitude pour toujours, ça n'intéresse personne. Mais quand on regarde par exemple la résurrection de Lazare, qui est une image de la résurrection à venir, ce que Jésus fait pour cette famille est merveilleux. D'ailleurs, Jésus fait ce signe autant pour la famille de Lazare, pour Marie et Marthe, ses sœurs, que pour Lazare. Et l'amour de Jésus pour cette famille, c'est de les réunir. La maladie de Lazare les avait privés de vie et de joie et d'unité. Mais la résurrection, ce que Jésus fait, c'est de les réunir. Et ils sont ensemble avec les êtres chers. Ils vont pouvoir vivre, goûter cette résurrection. Et c'est ce que la promesse de la résurrection, c'est un jour être réuni avec les autres enfants de Dieu et pouvoir vivre pleinement dans la famille de Dieu. Ou bien en chapitre 21, c'est comme un épilogue à l'évangile. Jésus refait, je pense qu'il refait un des signes, il refait la multiplication des pains et des poissons pour ses disciples, comme une espèce de déjà-vu, pour les interpeller. Et ça se passe au même endroit que le quatrième miracle en chapitre 6, Galilée. Et puis il y a encore cette multiplication et du pain et des poissons. Et c'est ce que Jésus va faire pour ces moments de retrouvailles. Il était mort, puis là, il est ressuscité. Il s'était déjà apparu aux disciples, mais brièvement, et là, ça va être des retrouvailles. Et en fait, il est là, sur le rivage, sur le bord de la mer de Galilée. Et qu'est-ce qu'il fait pour ses disciples? Il leur fait un petit déjeuner. Je suis venu afin qu'ils aient un petit déjeuner d'homme et qu'il l'ait en abondance. Et je me dis que ce matin-là, le goût du pain et l'odeur du poisson au barbecue devaient être particulièrement délicieux et particulièrement vivifiants. Parce que Jésus est venu aussi accomplir par sa résurrection, c'est-à-dire après la résurrection, la réalité n'était pas moins vivante ou intéressante, mais encore plus. Et quand je regarde les fêtes, la manière que le monde entier passe des fêtes, finalement, ce qui nous intéresse tous, le cœur des fêtes peut-être, c'est des retrouvailles avec des personnes que nous aimons, avec la famille, autour d'un repas. Le monde n'a pas trouvé mieux que ça pour fêter. Et tout ça, c'est des échos de la résurrection future. C'est comme ça que, comme le passage qui a été lu en Ésaïe 55 au début du culte, Dieu convie à une fête, on est ensemble. C'est ça la résurrection, c'est ce que Jésus offre par sa résurrection corporelle. Il redonne la vie, la pleine vie. Donc tout ça, c'est des signes. Jésus a fait des signes, des miracles, mais ce sont des signes qui pointent vers le genre de vie qu'il offre, son offre de vie. Maintenant, j'aimerais avancer et voir ces paroles de vie. Une autre particularité de Jésus dans l'évangile de Jean, ce sont des affirmations de Jésus sous la forme « Je suis ». Et puis, là encore, ils ont compté, ils ont trouvé 7. Ce qui, donc, probablement Jean est en train de concevoir ça et de manière exprès. Déjà, c'est fort parce que en hébreu, « Je suis », c'est le nom de Dieu, « Yahvé, je suis ». Donc, chaque fois que Jésus affirme « Je suis », c'était fort. Et pour certains, c'était très choquant d'entendre Jésus prendre ce nom de Dieu et de l'appliquer à lui-même. Donc, c'est déjà une affirmation de sa divinité. « Je suis l'Éternel ». Mais après, il ajoute des précisions et... Vous connaissez ces phrases peut-être où Jésus dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde ». Mais récemment, en regardant la liste, j'ai remarqué qu'elles ont, toutes ces paroles, elles ont trait à la vie. Elles nous aident à comprendre encore ce don de vie. Vous avez vu ça? Il dit « Je suis le pain de vie ». Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ou bien, il dit, et ça nous rappelle aussi Noël, Jésus est venu à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et donc, Dieu qui envoie la manne, par exemple, dans le désert pour nourrir le peuple, eh bien, ça, c'est aussi l'histoire de Noël pour nous. Dieu envoie le pain qui nous nourrit et il le place dans la maison du pain qui est Bethléem. Après, en chapitre 8, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Encore une parole de vie. Dans la bouche de tout autre, ce serait une prétention presque ridicule. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Quelqu'un qui parle comme ça sera signe de maladie mentale. On dirait qu'il est fou, un homme qui parle comme ça, mais il est fou de dire « Je suis la lumière du monde ». Et beaucoup ont eu cette réaction en entendant Jésus dire de telles paroles. « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, la vie. » Des gens ont réagi en disant « Mais il est fou, il a un démon, on ne peut pas parler comme ça ». La chose qu'il faut prendre ces paroles aussi avec les signes, parce que eux, ceux qui écoutent ces paroles, ils viennent de voir ou ils sont sur le point de voir des miracles très forts. C'est-à-dire Jésus est sur le point de guérir cet aveugle-né. Il dit « Je suis la lumière du monde » et puis il fait un miracle où il guérit cet aveugle-né. Et puis c'est un homme que tout le village connaît bien, que toute la communauté, que tout le synagogue connaît très très bien. Donc devant eux, ils ont un homme qui voit maintenant. À côté, ils ont Jésus qui fait des affirmations presque hallucinantes ou dépassées. Mais les uns disent « mais il est fou » et les autres disent « oui, mais quelqu'un qui a une grave maladie mentale, est-ce qu'il pourrait faire ce genre de signes ?» Donc, il faut mettre, quand on met les paroles et les signes ensemble, c'est très fort. Ensuite, Jésus a dit « je suis la porte des brebis, si quelqu'un entre moi, il sera sauvé ». Là encore, c'est la vie qu'il offre, l'idée d'être en sécurité, comme les brebis qui sont en sécurité dans un enclos bien gardé par le berger, gardé des loups. Combien de gens dans ce monde vivent dans la peur et dans les dangers et on aimerait tellement mieux pour eux. On pense à des quartiers ou des cités ou des pays où on n'est pas en sécurité, on vit dans la peur et dans le danger. Et donc, ce que Jésus dit ici, c'est très fort. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera une pleine sécurité pour son âme, pour son éternité. Après, Jésus a dit, je suis le bon berger des brebis. Et c'est juste avant ce verset, en Jean chapitre 10, que Jésus parlait du berger et le voleur des brebis. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est un des versets clés ce matin. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Ça, c'est l'histoire de Noël. Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Tout ça, il dit dans le contexte du bon berger. Et là, on voit que pour Jean, la vie, plus que la vie physique, c'est cette vie abondante. On peut être en vie et pourtant savoir très bien qu'on passe à côté de la vie normale, la vie épanouissante, la vie abondante, la vie à laquelle tout être humain aspire. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent détruire, égorger ou dérober la vie. Il y a des choses physiques, bien sûr, comme la maladie et la mort. Tout ça vient ont été introduits par le péché depuis Adam et Ève. Voilà, la maladie et la mort arrivent à nous priver de la vie abondante. Après, il y a des choses sociales, des inégalités, des injustices, la pauvreté, le chômage. Ça aussi, ça prive bien des gens de la vie abondante. Il y a des choses émotionnelles. Peut-être que vous avez vécu une rupture, des stress, des angoisses. Ça aussi détruit la vie abondante que nous voulons. Et puis, des choses spirituelles aussi qui privent de la vie abondante. Dans ce contexte de Jean 10, du berger et des brebis, Jésus fait référence surtout à des mauvais conducteurs spirituels, des voleurs qui gardent les gens dans l'oppression et dans l'erreur. Et c'est ça qui fait qu'ils sont détruits, spirituellement détruits. Alors c'est Jésus qui est le bon berger qui vient pour donner la vie. Cinquième affirmation, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Une parole de vie. Sixième affirmation, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vie. Tout ça, tout ça nous aide à comprendre ces premiers versets dans Jean. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et enfin, la septième affirmation et dernière, où Jésus dit dans la chambre haute avec ses disciples, « Je suis le vrai cep, ou je suis la vraie vigne, et vous êtes les sarments. » Là encore, c'est une image vivifiante, une image intéressante pour parler de la vie, la manière que le cep fournit la vie aux sarments, la sève qui passe et le sarment qui peuvent porter du fruit, des raisins. Et le contraire de ça, c'est être stérile, c'est être desséché. C'est avoir une vie qui ne sert à rien. Et ça aussi, nous recherchons en tant qu'être humain cette vie-là, cette vie féconde, cette vie productive, cette vie qui sert à quelque chose, cette vie qui porte du fruit. Nous voulons tous que notre vie compte et que les choses que nous faisons puissent durer éternellement. Eh bien, l'offre de Jésus, c'est lorsque quelqu'un demeure en lui, il porte ce fruit qui dure et qui demeure éternellement, puisque ça vient de la source même de vie. Parlant de source, une autre image dominante dans cet évangile, ça fait pas, c'est pas dans les listes des sept affirmations, mais ça ressemble à beaucoup. Une autre image dominante, c'est celle de l'eau et du soif. Dans les climats plus secs, agricoles, avoir de l'eau, c'est capital. L'eau, c'est la vie. Pour tant de cultures, à travers l'âge, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est capital. Le puits du village, pour beaucoup, c'était le point de rencontre. C'était le centre de vie. Encore, on voit que les grandes capitales, les grandes villes, sont toutes situées sur les fleuves, parce que c'est le fleuve qui apporte la vie dans tous les sens, physique et économique et tout. Et souvent, dans cet évangile, on va utiliser cette image pour parler de ce que Jésus apporte. Il dit, il se trouve à un puits un jour, et devant une femme, cette femme samaritaine, et il dit en Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Là, il dit ça à une femme qui n'avait pas tant soif physiquement, mais visiblement, elle avait une soif émotionnelle, une soif d'amour et d'affection, puisqu'elle avait déjà vécu 5 divorces et elle était encore avec un autre homme. On voit sa soif émotionnelle, sa soif d'amour, et Jésus vient, celui qui boit de l'eau que moi j'apporte, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc vous voyez, les signes de vie et les paroles de vie pointe et nous aide à comprendre cette grande affirmation. En elle, en Jésus, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Jean veut offrir ce cadeau à chacun en écrivant son évangile. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau que vous n'allez pas trouver sous le sapin cette année, cette vie que Jean propose. Mais il y a quelque chose de surprenant dans tout ça. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous avez ces miracles de vie, ces paroles de vie, ces offres de vie. Et puis, vers la fin, quelque chose de surprenant arrive. Celui qui est la vie, celui en qui est la vie et toute vie, celui-là, il meurt. Il meurt sur la croix. Celui qui est la source, il est desséché, il a soif. Sur la croix. Celui qui protège les brebis des loups, lui-même, il est tué par le loup. Celui qui est lumière, il est livré aux ténèbres du jugement et de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est justement dans ce moment-là où il a goûté la mort, c'est qu'il échange notre mort, notre sort, avec la sienne. Il échange notre mort pour sa vie. Les choses qui détruisent, qui égorgent, qui dérobent à la vie dans notre existence, il les a prises sur lui-même à la croix. Il les a subies. Il les a goûtées pour en mettre fin. Il a pris la mort et les influences de la mort et les conséquences de la mort et la cause de la mort qui est le péché. Il a Il a pris ça sur lui-même, sur la croix. Il l'a porté pour pouvoir nous donner la vie. C'est l'échange de la Bible. Notre mort pour sa vie pour notre mort. Donc j'espère vous mesurer maintenant la grandeur de l'offre que fait l'évangile de Jean lorsqu'on dit qu'en lui vous pouvez avoir la vie. Jean termine son évangile en disant, voilà, j'aurais pu écrire beaucoup plus de choses, mais ces choses-là, je les ai écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Le projet de Jean, c'est que vous ayez la vie en son nom. C'est son offre, c'est le cadeau de Noël. C'est vrai, c'est un grand cadeau. Pour certains, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop bon pour être vrai. Récemment, ça s'est passé à Toulouse, et dans un appartement, je pense que c'était centre-ville, il y avait un fuite d'eau, il y avait un dégât des eaux dans le grenier. Alors ils sont montés dans le grenier pour réparer cette fuite, et en défaisant certaines choses, ils ont trouvé un tableau qui semblait être un tableau d'un peintre italien très connu, le Caravage. Et ils ont trouvé ce tableau, alors la question se pose, est-ce que c'est un vrai authentique, ou est-ce que c'est une copie? Et dans ce cas-là, ça, si c'est une copie, ça vaut rien. On peut le remettre dans le grenier. Si c'est un authentique, là, ça vaut quoi? C'est 100 millions d'euros. Le Louvre est presque dans l'obligation de l'acheter pour 100 millions d'euros. Donc, vous imaginez, si ça vous arrive, c'est votre appartement, vous montez dans le grenier, vous trouvez ce tableau. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est vrai, l'offre est grandiose. 100 millions d'euros, si c'est un vrai. Si ce n'est pas un vrai, vous le remettez à la poubelle, vous oubliez complètement. Puisque tant de choses sont en jeu, au moins vous faites l'effort de faire vérifier. Au moins vous étudiez pour savoir si c'est authentique. L'offre de l'évangile, l'offre de la vie dont on parle ce matin est pareil. La grandeur de l'offre fait qu'au moins vous vérifiez, vous regardez si c'est authentique. Si tous ces miracles, tous ces signes sont inventés, sont légendaires, sont fausses, effectivement, la Bible vaut rien. Mais si c'est vrai, alors là, les enjeux sont énormes. Et l'offre est énorme, et vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Alors, on ne peut pas vous offrir la vie éternelle, Dieu seul, mais on peut vous offrir l'occasion encore ce Noël de découvrir. Lisez l'évangile pour vous-même, l'évangile de Jean. On se ferait un plaisir ce matin de vous offrir, si vous n'avez pas eu, un évangile ou un Nouveau Testament, une Bible. Et vous pouvez découvrir vous-même, voir si c'est authentique, si ça sent la vérité et l'authentique, ou si c'est du spam, ou si c'est inventé. Et vous pouvez lire vous-même et constater, comme tant de personnes l'ont fait, ça n'a pas l'air truqué. Tous ces miracles, tous ces signes que Jésus a fait ont été devant un grand nombre de témoins qui pouvaient attester de ces choses. Alors, vous-même, vous avez l'occasion de lire l'Évangile, de connaître Jésus qui offre la vie éternelle, que chacun puisse le saisir ce matin.